Et oui, vous le savez, le Dark Knight est mort. On nous l'a expliqué et le magazine Superman Batman vient de s'achever sur sa mort. Et il commence un nouveau magazine qui s'appelle Batman Legend, qui reprend donc un arc qui s'appelle What Happened to the Caped Crusader, deux numéros doubles signés Neil Gaiman et Andy Kubert. Alors, ces deux épisodes sont un hommage à ce qui avait été fait précédemment sur Superman, juste avant l'arrivée de Byrne en 86, avec Whatever Happened to the Man of Tomorrow, qui clôturait donc les aventures pré-crisis du Batman, pour nous mettre ce personnage du Superman, pour nous mettre une nouvelle version.
Là, c'était Alan Moore qui s'était chargé du scénario.
Exactement, donc dans une version qui était limite hors continuité. Et donc là, Gaiman nous fait la même chose avec cette version limite hors continuité sur le jeu. Ah bon, si, elle est plus que limite hors continuité d'abord, parce qu'on voit le cadavre de Batman et qu'il n'y a pas de cadavre de Batman.
Non, attends, c'était pas par rapport à ta remarque sur la hors continuité du Caped Crusader, mais plutôt celle de Superman. Tu peux pas dire qu'elle est hors continuité, puisque toute la continuité qui a clôturé était de toute façon annulée pour être remplacée par celle de Myrne.
Oui, donc, mais voilà, c'est vrai que c'était un peu une manière de tout terminer.
De façon, je trouve, intelligente.
Voilà, moi c'est juste que ça clôturait une partie que j'aimais pas de Superman et que je trouvais que c'était nettement mieux dans la version de Byrne. Je tiens à le dire.
Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que ils ont clôturé quelque chose, mais ça a été fait avec respect, pas comme ce qui a pu se passer sur certains Brand New Day.
Ouais, ça c'est clair. Donc là, en tout cas, sur cet arc, au départ DC voulait faire un truc luxueux, mini-série et tout, et c'est Gaiman qui a dit, moi je le fais que si c'est dans les séries continues. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est sorti dans les magazines Batman et Detective Comics, c'était une exigence de Gaiman pour rappeler justement ce qui avait été fait sur le premier Whatever Happened. Là, effectivement, aux États-Unis, on a donc ces deux séries qui sont un hommage. C'est très beau, c'est sympathique à lire, même si ça n'a effectivement aucune importance en termes de continuité. Ça a amené donc à Battle for the Call juste après, au niveau éditorial, mais certainement pas au niveau scénaristique. C'est pour ça que quand Panini nous relance le magazine avec ces deux numéros qui sont quand même assez spécial à lire, justement, même si c'est dans la série. Oui, c'est de l'arc qui est assez spécial. Eh bien, on se demande quelle idée ils ont eu de mettre ça dans le numéro 1 d'un nouveau magazine, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourra lire par la suite, et surtout ce qui est vraiment le Batman. Donc là, ce numéro est sorti cette semaine, et là, on a une douloureuse surprise en plus, qui prouve qu'au niveau éditorial, ils se sont encore cassés une jambe. Dans ce numéro, avec ces deux-là, ils collent le premier Battle for the Call. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu penses, Alain, mais tu es d'accord avec Stéphane ?
Bah, à la rigueur, c'est plutôt logique, j'ai envie de dire.
C'est plutôt logique, sauf que ça, à la limite, ils en faisaient un numéro zéro, ils en faisaient un truc de librairie en grand format, ils en faisaient quelque chose, mais ils mettaient en valeur, et ils commençaient vraiment Battle for the Call dans un numéro 1, et où c'est visible, parce que là, on le voit même pas qu'il est dedans. C'est même pas annoncé avant.
Alors que c'est quand même c'est important pour le reste des...
Oui, mais c'est Tony Daniel.
Oui, enfin, c'est comme, soyons honnêtes, Tony Daniel, pour une fois, à faire quelque chose qui est à peu près potable.
Et puis la prochaine.
C'est du mainstream, c'est lisible, ça pisse pas loin, ok, mais par rapport à ces Tens ou autre.
Hein? Voilà. Bon. Et puis bon, soyons honnêtes aussi, le problème c'est que le mois prochain, quand vous avez les gens vont vouloir acheter Battle for the Call, ils n'auront pas une histoire complète, ils n'auront pas le début, ce sera du Tony Daniel. Ça va pas aider à l'acheter.
Bah, généralement, on veut commencer un magazine au numéro 1 aussi. Pour être...
Ouais, mais bon. En même temps.
Vu que est-ce qu'on n'est pas censé avoir que des.
Voilà,
complète à chaque numéro.
Le premier, on ne te l'annonce quand même pas comme du super-héros classique avec cet arc. Il est quand même hors norme et il est. n'était certainement pas... Il n'est pas fait pour commencer quelque chose, il est fait pour clôturer. Donc on ne le met pas dans un numéro 1.
Voilà. Surtout qu'en plus, sur le matériel de colle, ils sont en trois numéros, ça pouvait faire un magazine seul, et ça pouvait être, à mon avis, c'était un peu plus intéressant, et ça permettait de repartir sur la suite et de pouvoir instaurer la mise en place du nouveau Batman et Robin, etc.
Je pense qu'effectivement, c'est surtout au niveau marketing qu'ils se sont plantés, parce que Battle for the Call, ça pisse pas loin, mais c'est pas méchant. Mais ça, c'est quand même très bon. Le numéro, il est acheté, honnêtement. Oui,
mais de toute façon, est-ce qu'ils vont publier les Detective Comics avec Batwoman?
Non. Ou peut-être en librairie.
Donc effectivement, ils auraient mieux fait d'attendre, enfin de publier Battle for the Call en un seul et même numéro, et après ils repartaient donc sur le Batman et Batman et Robin, et c'était à mon avis beaucoup plus cohérent.
Bah là, c'est de toute façon ce qu'ils ont effectivement prévu par la suite. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu décevant quand même par rapport à ça, parce que au niveau de cette histoire, aux États-Unis, DC l'a sorti dans les spéciaux. Mais parce qu'il y avait une réalité historique, ça rappelait le premier arc. En France, c'était pas dans la logique. Et c'est vrai que ces deux épisodes avaient plus leur place en librairie, dans un format taille franco-belge, par exemple.
Surtout que c'est quand même. On est vraiment sur du Neil Gaiman pur et dur. Donc avec quand même tout un travail sur le côté très, très. Une vision très onirique de Batman. Et très très symbolique, surtout quand on voit les dernières pages qui bouclent vraiment une boucle.
Et puis on est dans le symbole du début à la fin,
tout à fait. Mais c'est une très très belle lecture. Faut dire que, par contre, elle nécessite quand même un certain investissement du lecteur, mais il vaut mieux les lire les deux d'affilée. Par contre, après, on est vraiment. C'était vraiment un bel hommage. On clôturait quelque chose, mais vraiment avec tout le respect qui était dû au personnage.
Non, non, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très, très efficace, assez déstabilisant, parce qu'effectivement, on ne nous l'annonçait pas vraiment comme étant totalement hors continuité. Ça mêle effectivement toutes les influences que Gaiman aime, tous les personnages qu'il a pu aimer à différentes périodes. La Catwoman, par exemple, a carrément son style années 40, elle n'est pas du tout dans le look moderne. C'est très bien fait, Kubert s'en sort très bien. En plus, ancrage... Comment ?
Évidemment qu'il s'en sort très bien.
Et là, avec un ancrage de Scott Williams...
qui passe bien pour le coup.
Qui passe bien.
C'était pas forcément le premier choix qu'on aurait pu penser, mais ça passe.
Voilà, et puis bon, avec un cahier à la fin pour ceux qui ont acheté les versions anglaises, avec tous les crayonnés de Kubert qui sont montrés, et qui là sont aussi évidemment très intéressants. On voit aussi que Kubert a vraiment travaillé ses crayonnés, et que là-dessus, il n'a pas laissé... Williams faire le boulot tout seul. Donc voilà, c'est quand même à lire, même si effectivement au niveau marketing, je pense qu'ils se sont plantés une balle dans le pied eux-mêmes et qu'ils s'assurent l'échec de leur nouveau magazine. C'est bien dommage.
Moi je pense que les gens vont acheter le numéro 1 et puis comme il y a un à suivre à la fin, ils vont acheter le numéro 2, donc c'est peut-être pas plus mal.
Ouais. Enfin, pour ceux qui ont acheté le numéro 1. Pour ceux qui attendent effectivement d'avoir du
bain. Ils vont l'acheter, puisqu'il y a Gaiman et Kubert quand même, ils seraient bien bêtes.
Ben, je sais pas, parce que Gaiman et Kubert, ça peut attirer des vieux de la vieille, comme nous. Est-ce que ça va attirer le gamin qui veut des trucs colorés avec du super-héros en costume? Je suis pas sûr.
Là, ça risque c'est une bonne introduction à des comics qui font réfléchir. Hein.
Ouais,
peut-être être un peu rude.
Quand tu veux que t'as 10 ans et que tu veux du super-héros, tu veux pas du comics qui fait réfléchir.
C'est clair.
Donc voilà. En tout cas, eh bien, c'est une initiative qu'on ne peut pas. On peut pas les incriminer pour ça. Ils ont tenté. Ça me paraît effectivement être risqué.
De toute façon, attends, mais le seul juge, ça sera le nombre de ventes. Hein.